philosophe public est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour, pour cette nouvelle émission des philosophes publics, nous avons autour de la table Louisa et Gabriel, membres du collectif Bonjour. Les philosophes publics.
Bonjour.
Et
Bonjour.
Nous avons David et Célia, Bonjour. Qui sont deux jeunes, donc qui fréquentent la Maison pour tous Saint-Louis, campagne l'Évêque, dans le 15e arrondissement de Marseille, une maison pour tous avec laquelle les philosophes publics ont mené un projet pendant un an, du printemps 2016 au printemps 2017. Un projet qui a commencé par un travail avec l'équipe, donc des animateurs, et puis qui s'est prolongé avec un petit groupe de jeunes, une dizaine de jeunes, qu'on a vus quelques fois dans l'année, à peu près tous les mois, et qui, le 2 juin 2017, ont animé avec nous un débat à la Maison pour tous. Alors juste pour lancer l'émission, je rappellerai que le thème que nous avions choisi finalement, c'était une question philosophique très large, c'était « Qui suis-je ?». Oui. Parce qu'au départ, nous étions partis sur quelque chose d'un peu plus sur l'identité nationale, etc.
Si, si, on se sentait français, tout ça.
Ouais. Et alors pourquoi d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles David, pourquoi on avait un peu laissé tomber cette question-là?
Ben, parce qu'en fait, on a vu que de cette question-là, on a eu plein de sujets, mais on a tous fini sur le sujet de la religion en fait.
C'était trop large en fait.
C'était trop large, mais il y avait toujours un milieu et c'était la religion.
Alors c'est vrai qu'on va en parler sans doute de ça, hein. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on abordait une question ou presque, on revenait sur la religion. Alors juste avant de passer la parole à Célia aussi et puis à nouveau à David, je vais juste relire en fait toutes les questions qui ont été amenées par la question « Qui suis-je ?». Alors d'abord on s'est demandé quels sont les bons mots pour dire qui nous sommes. Ensuite nous sommes demandé si on peut être fier de ses origines. Puis qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous sentir vraiment citoyens? Suffit-il de vouloir changer pour pouvoir changer? Comment modifier notre trait de caractère? À quelles conditions peut-on apprendre de ses erreurs? Que faire de l'image que les autres se font de nous? Peut-on être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que nous? Hein, puisqu'on avait parlé de l'amitié, qui était importante pour se connaître, etc. Un croyant peut-il être ami avec un athée? Un athée peut-il avoir une morale? Alors peut-être Célia, sur le tout début, alors sur les mots pour se dire, est-ce que tu peux peut-être raconter comment on était parti, sur quels sont les mots qui peuvent permettre de définir qui on est? Est-ce que tu te souviens
Il y avait eu des petits papiers, tu sais.
Oui, ça sortait souvent, si on était une fille, un garçon, ce qu'on faisait, ce qu'on aimait, et souvent la religion et les origines, pour définir qui on était.
Et qu'est-ce que tu en penses, justement, le fait que les origines et la religion soient revenues aussi souvent, finalement, pour se définir, alors qu'on peut se définir par plein de choses? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ben, c'est, pour moi, en tout cas, c'est ce qui est le plus logique. En fait, on a grandi avec ça, c'est ce qui revient le plus souvent. On a toujours été habitués comme ça, donc...
Par qui?
Ben, pas forcément par nos parents, mais peut-être dans la rue, nos amis.
En fait, c'est à force de voir des gens, comment ils ont parlé. Nous, on a pris l'habitude de parler comme ça, donc on peut pas dire c'est qui nous a appris, parce qu'on a grandi en entendant en fait comment les gens se présentaient, et donc nous on a eu cette façon là de nous présenter aussi.
Et on avait constaté aussi que ce qui était assez bizarre dans les petits papiers là, qu'on vous avait proposé, donc on avait proposé des petits papiers où chacun de mettre 4 mots pour se définir, on tombait souvent sur les mêmes mots.
Oui.
Alors garçon, fille,
football,
musulman, je sais pas trop quoi. Et alors qu'en fait, on est tous différents finalement.
Ben en fait, on veut ressembler aux autres. On veut pas avoir les gens, ils assument pas sur, on n'assume pas surtout notre. Ouais, en fait, on s'assume pas. Et on veut tous ressembler aux autres pour bien
s'intégrer,
s'intégrer, tout ça. On a vu qu'il y avait plusieurs groupes, leur façon, tout ça.
Mais en même temps, je me souviens qu'au bout d'un moment, vous aviez aussi du mal à rester figé sur une étiquette et à la refuser aussi, quand on vous disait ah ben vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et que justement, oui, il y avait.
Parce qu'en fait, on était content quand vous nous le disiez. On se disait, c'est nous. Mais en vrai, vraiment, en fait, ouais. Nous, on n'est pas comme ça. Mais comme on a écrit sur le papier, on était content de savoir que vous nous avez reconnus par rapport au papier.
Oui.
Mais au fond, franchement, on n'est pas comme ça.
Si mais vous aimez pas non plus qu'on vous donne des étiquettes figées comme
non,
ça
même
et
si
que forcément. Donné,
on n'aime pas qu'on nous les impose en fait.
Ah oui.
Vas-y, Célia, explique-nous ça.
Bah, par exemple, si moi je décide de mettre en avant comme quoi je suis musulmane, bah, c'est sur le moment que je l'ai décidé. Mais si quelqu'un d'autre il me dit ah la musulmane ou ah l'arabe, si j'ai pas décidé qu'à ce moment-là je me sentais comme ça, il n'a aucun droit de me donner cette étiquette.
Oui, on avait parlé à cet égard, je sais pas si vous vous souvenez, d'assignation identitaire, quand quelqu'un nous enferme en fait, dans une de nos caractéristiques, je sais pas, le jeune ou l'arabe ou ce que vous voulez, ou le prof de philo, hein, ça peut être ça aussi, quoi, l'intello.
Qui reste entre eux,
ouais.
Qui se...
On était parti d'un mot marseillais, là, tu te rappelles pas là,
Le paillot, qu'est-ce
le
qu'un paillot,
paillot, voilà.
Paillot. Ouais, qu'est-ce qu'un paillot, ouais.
Que je connaissais pas moi en plus hein, comme terme, donc vous m'avez appris là.
C'est sa maman, c'est genre
ouais, un petit
intello.
On lui achète
petit...
tout.
Et donc, il fallait définir ce que c'est qu'un paillot. Et je me souviens que Marc, il avait demandé, moi, alors je suis un paillot. Et quand même, vous avez dit, bah oui, quand même.
Moi, je connaissais parce qu'on me dit que j'enseigne dans un lycée de paillot. Alors, mais dans le lycée de paillot dans lequel j'enseigne, ils se traitent entre eux aussi de paillot. Il y a toujours plus paillot que soi,
oui,
en fait.
C'est
hein.
Ça. Ouais.
Et est-ce qu'entre vous, dans le groupe, quand on est venu parler avec vous, est-ce que vous aviez peur de dire des choses par rapport au jugement de vos copains en disant peut-être qu'ils vont penser que je ne suis pas ceci ou que je suis trop
seul? Moi,
oui.
Non.
David,
moi, non.
Sur quoi, par exemple, sur quel sujet?
Ben, surtout, je voulais pas parler, moi, parce que je voulais pas montrer que je pouvais être très brillant, mais après, je me suis laissé aller et j'ai appris des trucs, tout ça.
Parce que moi, j'avais parfois le sentiment, mais c'est normal, puisque vous faites partie tous d'un même groupe, et nous, on arrivait de l'extérieur, que parfois, vous surveillez un petit peu, c'est-à-dire...
Notre langage, oui, parce qu'on veut pas se montrer trop... Ouais, comme... Pas montrer qu'on est un petit paillot, voilà, c'est simple.
Et est-ce que faire de la philosophie, c'est être un paillot, alors?
Ben, c'est dans les quartiers, ouais.
Ah, dans les quartiers,
ouais. C'est mal vu, dans tous les quartiers. Les gens, ils vont pas comprendre.
Après, moi, personnellement, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense. Celui qui est content, il est content. Celui qui est pas content... Tant pis.
Mais pourtant, c'était lors du débat, David, tu disais oui, des fois, pour être accepté dans un groupe, on est amené à parler vulgairement, etc.
Oui, comme si... obligé. Tu es obligé, parce que si tu veux t'intégrer, tu es obligé de t'adapter aux autres. Non, tu n'auras jamais
d'amis. Pourquoi ce ne pas les autres qui s'adaptent à toi aussi?
Après, c'est chacun sa façon de voir.
Tu te rappelles, Célia, ce que tu avais dit là, sur le rapport les femmes voilées, que forcément, quand on voit une femme voilée, on se fait une certaine idée, etc. C'était intéressant aussi ce que tu disais.
Quand on voit une fille voilée, c'est surtout une fille bien.
Ah oui, non, parce que moi, je disais que ça, d'être voilée, de ne pas être voilée, de porter une mini-jupe, pas une mini-jupe, ça ne veut rien dire. Que ce n'est pas parce que c'est une fille voilée que ça va être une fille bien et une fille en mini-jupe que ça va être une mauvaise personne. En fait, on ne peut pas savoir si tu la connais pas. C'est pas au premier regard qu'on peut savoir.
C'est des préjugés.
Oui, c'est des préjugés. L'habit ne fait pas le moine après, on ne peut pas savoir.
Et j'avais fait remarquer après, ou je ne sais plus, enfin je le fais remarquer maintenant, peu importe, que en fait c'est quand même la fille, la femme, hein, l'habit ne fait pas la moinesse là, parce que c'est quand même mini-jupe et voile, ça concerne surtout la femme. Vous en dites quoi de ça?
Oui, c'est sûr. Mais. En fait, toujours, on va juger les femmes. Les garçons, ils ne se jugent pas.
Non, tu crois? Mais ils sont tous habillés pratiquement pareil.
On est tous habillés pareil.
Jeans, survêt.
Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est que les filles, ils ont beaucoup plus... Ils ont un grand... Ouais, ils peuvent s'habiller de toute façon.
Je ne sais pas si tu te rappelles, David, mais quand on avait posé la question sur l'égalité, puisque la question de l'identité, on avait dit, elle peut se soulever aussi la question de l'égalité, on vous avait demandé, est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? Et il y en avait l'un d'entre vous, c'était aucun de vous deux, hein, à vrai dire, qui avait dit, ils doivent avoir presque les mêmes droits.
Presque.
Et il y a eu un débat, alors, qui était assez animé. Et là-dessus, il me semble qu'il avait évolué, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons.
Moi, je pense, si je me rappelle bien, je disais que c'était l'homme qui devait toujours faire les choix, en fait, sans demander l'avis à la femme. Mais après, Anna, ils ont dit qu'il faut qu'ils aient les mêmes... comme celle-là, elle voulait que...
C'est pas laisser faire
choix, les mêmes droits, mais après, pas surtout. C'est pas, pour moi, c'est pas l'homme qui va aller, va faire le ménage, va faire à manger pendant que la femme, elle travaille. C'est quand même l'homme qui doit ramener l'argent et tout, mais la femme, elle peut avoir sa liberté de son côté, faire ce qu'elle veut de son côté.
dépenser tout l'argent, par exemple.
Voilà, c'est un très bon choix.
Et David, alors aujourd'hui, là, au bout d'un an, est-ce que, si tu me réponds sincèrement, si tu te dis, alors finalement, est-ce que les hommes et les femmes doivent ou pas avoir les mêmes droits, tu t'en serais où de ta réflexion?
Moi, maintenant, j'ai grandi avec vous. Ouais, je vous l'ai dit, dans chaque séance, à chaque fois, je disais que j'ai appris des trucs. Genre, je me remettais en question. Maintenant, sincèrement, je dis que les hommes ne peuvent pas vivre sans les femmes. On a toujours besoin, parce que tôt ou tard, on sera dans une situation où on aura besoin de la vie de quelqu'un. Si on a une femme, son avis va aussi compter comme le nôtre, parce qu'elle va passer comme nous, elle va essayer de se mettre à notre place. Et là, j'ai compris ça, en fait, comme la situation des athées où je disais que je ne pouvais pas être
ensemble. Ah ouais, on va y revenir là-dessus aussi. Ouais.
Et ben, là, c'est pareil, j'ai appris que, voilà, dans ma tête, je me suis remis en question, je me suis dit que je peux, il faut que je m'ouvre. Il faut que je vois les autres. C'est pas vraiment ce que je me disais d'eux, mais j'ai appris des trucs.
Alors avant de parler des athées, parce que peut-être je voudrais juste qu'on reste 3 minutes sur la question de l'égalité homme-femme, qui me paraît quand même très importante aussi. En fait, donc quand on était parti du postulat, les hommes doivent avoir plus de droits que les femmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'un d'entre vous, c'était pas toi, l'un d'entre vous avait dit. Et ensuite, on avait dit, mais comment est-ce qu'on peut argumenter la position inverse? Parce que finalement, nous, en philosophie, vous le savez, ce qui est important, c'est les arguments. Mmh. On s'était dit, par exemple, on trouve assez normal qu'un enfant n'ait pas tout à fait les mêmes droits qu'un adulte. Par exemple, le droit de vote. Voilà. Mais on s'est dit, sur quel argument on pourrait fonder l'idée que les femmes n'auraient pas les mêmes droits? Est-ce qu'on en avait trouvé des arguments ou pas?
Je crois que c'était sur la force. On disait que les hommes étaient plus forts, donc ils étaient obligés de.
Est-ce que c'est un bon argument?
Au travail, je crois. Il y avait des travaux qui étaient plus adaptés aux hommes qu'aux femmes au niveau physique, comme il a dit.
Comme ça, c'est pas une question de droit.
Oui.
Ouais, mais on se faisait une idée par rapport à ça. On se disait qu'on pouvait avoir les droits que par rapport à ça. Mais
ça vrai... voudrait dire que le droit s'appuie sur la nature. Je dis pas, mais voilà, c'était un peu ça l'idée.
C'est ça,
alors
l'idée.
Que peut-être on peut penser que le droit il doit corriger des inégalités naturelles, c'est-à-dire celle de la force physique, par exemple.
Oui.
Mais surtout qu'il y a des hommes qui sont physiquement plus faibles que des femmes. Si je fais un match de boxe contre Myriam Lamar, je pense que je perds. Enfin, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Hein. Je le pense, c'est que voilà. Donc, et puis le propre de la société humaine, c'est qu'on ne fonde pas les droits sur la force, justement. Sinon, on ferait des concours. Celui qui fait le plus de pompes aurait plus de droits. Enfin, ça n'a aucun sens.
Je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Il y a 6 mois, je vous aurais expliqué ça. Je vous aurais dit par rapport à la force.
D'accord.
Mais maintenant que j'ai compris que ça valait rien, en fait. Ce que je disais, c'était n'importe quoi.
D'accord.
Et le petit David, il gagne contre Goliath. Tu sais ça.
Oui, toujours. Hein.
Alors sur les athées, oui, c'est vrai qu'il y a un grand débat. Alors ça nous a quand même pris du temps. Hein. Ouais. Quand on a parlé de l'amitié, en fait, c'est parti de l'amitié au départ. On s'est dit, est-ce qu'on a besoin d'amis pour se connaître? C'était l'hypothèse qu'on avait fait. Et puis ensuite, on s'était demandé, est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qui a une autre religion? Est-ce qu'on peut être ami avec un athée? Là, quand même, la plupart d'entre vous n'étiez pas très chaud pour être ami avec des athées. Alors il y avait 2 arguments pour lesquels vous n'étiez pas très chaud. Est-ce que vous en souvenez, Célia, peut-être? Les arguments qui avaient été proposés pour dire moi les athées je m'en méfie.
Ah oui, il y en avait qui avaient dit parce qu'ils ont peur de l'influence que l'athée peut avoir sur sa religion et ses opinions. La deuxième, je ne me rappelle pas forcément.
Ah si, c'est David que je crois qui avait dit que c'est sur la morale, c'était.
Oui.
Ah oui, qu'ils n'ont pas de morale, je crois que.
Qu'ils n'ont pas de morale, tout ça.
Je ne pensais pas qu'ils avaient une morale.
Tout ça, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de morale, tout ça?
Moi, je n'étais pas sur la morale. Moi, c'était Céa qui parlait de la morale. Moi, je parlais que j'avais peur parce qu'ils pouvaient nous influencer à faire du mal. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous, on avait la religion pour qu'ils nous mettaient des limites.
On Donc c'est lié à la morale, oui. C'est
voilà,
lié à la morale.
On peut dire ça.
Ouais.
Et on avait nos limites, nous. Mais eux, peut-être, ils ne les avaient pas. On ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas ce qu'ils pensent dans leur tête, tout ça et tout, comme nous. Mais voilà.
Et alors, quels arguments on avait proposé là-dessus? Est-ce que vous en rappelez un petit peu tous les deux?
Non.
Non, ça fait longtemps un peu quand même.
Ça fait longtemps.
Non, moi,
Célia, toi, tu en avais des arguments, je me souviens. C'est-à-dire que tu avais dit finalement, est-ce que je peux être sûr que si quelqu'un me dit qu'il est musulman, par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il est athée, l'un sera meilleur que l'autre?
C'est ça, moi j'avais dit que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on a forcément des limites, qu'on suit forcément à la religion. Parce qu'après, chacun s'adapte la religion à lui. C'est pas nous qu'on s'adapte à la religion, c'est la religion qui s'adapte à nous. Normalement, ça devrait être le contraire, mais après. Ça marche pas comme ça et du coup en fait on peut pas savoir si quelqu'un qui a une religion a plus de morale que quelqu'un qui est athée, parce qu'après la morale elle vient pas forcément de la religion, il y a des points par rapport à la religion mais pas forcément, pour moi ça vient de l'être humain, de la façon de penser, donc pour moi ça venait pas forcément de la religion. Donc voilà.
Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que tous les chrétiens sur Terre n'ont pas les mêmes comportements et n'ont pas finalement la même morale, puisqu'ils font des choses très différentes, comme vous le savez? Pourquoi en fait, à votre avis?
Ça, on peut pas y répondre parce qu'ils sont ni chrétiens, donc ils ont vu ce que leur parents ils ont fait. Donc ils ont grandi comme ça eux. C'est, ils ont grandi, exemple, on peut faire un exemple, qu'ils ont grandi dans le nord, nous on a grandi dans l'est, nous on aura les habitudes du sud et l'habitude du nord. On ne peut pas vraiment répondre à cette question. Parce que c'est d'après d'où tu grandis,
ouais,
en fait.
D'où tout tu ça, viens, tout
les idées
entourage.
Que tu vas te faire, ça, ça vient de où tu vas grandir.
Donc c'est plus important l'endroit où tu grandis et qui et t'élève que finalement la religion.
Oui, parce que
au
où tu es élevé, si tu es bien élevé, où tu es bien entouré, tu auras toujours un bon comportement, tu seras un bon citoyen. Mais après, si tu es élevé avec des gens qui sont gentils, hein, que je ne veux pas dire qu'ils sont mal, mais qu'ils ont un mauvais comportement, tu es sûr que tu ne seras pas un bon citoyen. Après, tu peux changer. Comme moi, j'ai changé. Je me suis rendu des trucs. Je me suis rendu compte des trucs.
On a soulevé aussi, enfin, c'est revenu plusieurs fois, la question de l'homosexualité aussi, une autre forme de, fin d'altérité. Et il me semble que là aussi, il y avait différents avis et que vous avez peut-être changé aussi.
Non, moi, je ne change pas.
Non.
C'est pas mes collègues.
Non, moi plus.
C'est pas mes collègues.
Je suis ni pour ni contre. C'est quelqu'un qui veut être homo, ben, c'est son choix. Mm. Quelqu'un qui veut être hétéro, c'est son choix. Mais je ne vais pas aller me battre pour que la loi, elle passe ou pour que la loi, elle ne passe pas. En fait, ça passe, ça passe. Mm. Si c'est leur choix, en fait. Mm. C'est voilà.
Mais bon, Karim n'est pas là avec nous, mais il avait dit, mais si t'apprenais, donc c'est leur éducateur, si t'apprenais que j'étais homosexuel, alors tu me rejetterais, et t'avais dit quoi ?
C'est pas pareil.
Pas pareil.
Ah, bah alors, finalement...
Ouais, mais je sais pas, je peux pas devenir collègue, j'y arrive pas.
Ouais, oui.
Enfin,
moi, je m'en fous un peu.
Ce qui nous semble important, les philosophes publics, on vous l'a déjà expliqué, hein, c'est que c'est aussi de mettre des gens différents en rapport. Parce qu'en fait, peut-être que des homosexuels ou des athées, etc., finalement, tu n'en connais peut-être pas tant que ça. Ou du moins, ils ne le disent pas qu'ils le sont. Tu vois, parce qu'il y a peut-être, peut-être un peu une méfiance, quoi.
On ne va pas être ami avec un musulman, avec un arabe, avec un juif ou avec un homo. On va être un ami avec la personne, le comportement qu'elle a et comment elle est, les affinités qu'on a avec elle. Pas forcément pas ce qu'elle est au fond, mais... C'est un côté privé. Bah après, il y en a qui le montrent, il y en a qui le montrent pas. Comme la religion, il y en a qui la montrent, il y en a qui la montrent pas. Mais c'est pas ça qui fait la personne. Après, on est mis avec la personne en elle-même, on n'est pas mis avec ses choix religieux ou ses choix.
Oui, c'est, c'est un peu une des conclusions auxquelles on était arrivé au débat d'ailleurs l'autre jour. Cette idée qu'en fait, ce qui fait une personne, ce qui fait une identité, c'est plein de choses en fait. C'est, peut-être on va aimer les mangas, peut-être qu'on va aimer jouer au foot.
C'est les affinités qu'on aura avec la personne.
Et qu'aucun d'entre nous, en fait, on s'était dit finalement ce qui est dangereux, c'est quand quelqu'un ne se définit que par rapport à son opinion politique, ou que par rapport à son origine, ou que par rapport à sa nationalité. On avait vu un texte, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez là-dessus, vous vous souvenez d'un texte qui s'appelait Les identités meurtrières, ça vous dit rien ? On l'a vu lu ensemble.
Non.
C'est un monsieur qui parle de ça, justement, qui parle du danger des gens, en fait.
Ah oui, d'avoir qu'un point de repère, je crois.
Exactement, c'est ça, qu'un point de repère, tout à fait.
Et vous vous souvenez de cette au débat, il y avait une dame qui est intervenue à la fin pour donner deux images de l'identité, celle de la fleur et celle du diamant. Vous vous rappelez ?
Ah oui, mais je me rappelle plus exactement ce qu'elle avait dit.
Non, parce qu'elle disait qu'elle voyait l'identité un peu comme une fleur, les pétales d'une fleur. Enfin, on imagine une fleur.
Ah oui, et que la religion c'était qu'une pétale de la fleur.
Mmh. Et puis qu'après elle avait changé d'image pour celle
du diamant, parce qu'elle avait plus de face et plus de façons de se déterminer, je pense.
Ouais, et puis, qu'est-ce qu'il a de plus aussi ? Tu te rappelles pas, il avait dit...
Le plus précieux.
Ouais, et puis ça brille,
c'est
quoi.
C'est plus brillant.
Alors peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à peu près à la fin de l'émission. Tout à l'heure, je vous ai demandé si faire de la philosophie, c'est être un paillot. Vous avez dit un peu, quand même. Donc, on assume, on est des paillots. Bon, de toute façon, je le savais déjà.
Ouais, je suis devenu un
paillot. Ouais, voilà, méfiez-vous. Qu'est-ce que c'est alors faire de la philosophie ? Comment vous, au bout d'un an, enfin, on n'a fait qu'une dizaine de rencontres, on n'a pas fait des cours toutes les semaines, hein, c'était pas des cours d'ailleurs. Mais est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez dire finalement ce que vous avez retenu de l'activité philosophique ? C'est quoi faire de la philosophie ensemble ? Peut-être David d'abord et Célia ensuite ?
Ben, moi je sais pas comment répondre, mais tu vois, j'ai appris beaucoup de trucs, je me suis remis en question. Là maintenant, je sais que j'ai grandi dans ma tête, je pourrais assumer plus de trucs plus tard. Et je sais comment parler aux petits pour leur expliquer et pour leur montrer que c'est pas forcément en regardant les autres que tu vas grandir ou tu vas apprendre des trucs. C'est en te faisant ton chemin, tes idées et ta façon de vivre. En les montrant aux autres, sans vivre de leur façon
à
eux.
À la fois, David, juste je repose une question. On t'a pas appris grand-chose. C'est pas comme dans un cours d'histoire. On n'est pas venu vous apprendre des dates.
Non,
qu'est-ce que tu as appris alors finalement ? Si tu devais en un mot, tu as appris quoi ?
Tout ce que je devais compléter dans les trucs qui me manquaient pour grandir.
D'accord.
C'est comme si c'était des phrases qui me manquaient, c'était des petits mots qui me manquaient pour compléter ma phrase.
Des phrases pour grandir.
C'est ça.
Pas mal. Célia.
Moi, ça m'a appris à être plus attentif aux gens, en fait. À voir comment elle est la personne au fond et pas les apparences. Ça apprend beaucoup à se déterminer soi-même, à savoir qui on est avant de savoir comment sont les gens, en fait. À se situer et à découvrir, en fait, à apprendre. En fait, on a appris plein... On a pas appris, parce que c'est des choses qu'on savait déjà, mais en fait, on les a développées, on a agrandi nos idées, on a...
C'est beau, voilà. Ça, agrandir ses idées.
Mmh. On a partagé...
Et nous aussi, on a appris. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, nous, à votre contact, on a appris des choses. On a été enrichi par votre contact de la même manière que vous l'avez été avec nous.
Eh bien, merci à tous les quatre.
Merci à vous.
Merci à la Maison pour tous Saint-Louis de nous avoir accueillis pendant cette année. On espère que l'année prochaine, donc,
merci,
on pourra refaire
aussi
quelque chose. Merci David. Merci Célia. Merci Gabriel. Merci Louisa.
Et bientôt, merci Marc.
Et à bientôt pour de nouvelles émissions de Radio Grenouille. Et des philosophes publics, et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur la page des philosophes publics, où vous aurez les comptes rendus de ce qu'on fait, les annonces de ce que nous allons faire. Merci.
Au revoir.
Les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.